Bienvenue sur le podcast de slowtraining.ca, une vision en mouvement. Mon nom est Éric Blais, entrepreneur, amoureux de la vie, enseignant et passionné par le mouvement. Je suis heureux d'être avec vous où vous soyez pour vous partager mes connaissances et mon expertise dans le domaine de la santé préventive, mais aussi mes réflexions et expériences personnelles. Un pas, une respiration et une répétition à la fois. Je suis avec Gabriel-Aimé Girard Audet, alias Gaga, pour les gens qui le connaissent sous ce pseudonyme de Ron Gaga. Kinésiologue, il y a aussi une maîtrise en spécialisation de la course. Il est le fondateur ou cofondateur, dépendamment comment on voit ça aujourd'hui, de Kinactif. C'est aussi un triathlète et c'est justement ce qui m'a beaucoup impressionné et ce qui m'a donné énormément envie de l'avoir sur mon podcast de la vie et mon gym. Comment ça va, Gabriel?
Ça va très bien, Eric.
En forme?
Très en forme et très heureux d'être ici en ta compagnie.
Oui, vraiment. C'est un bon bout de temps qu'on ne s'était pas vu.
Oui, ça fait, je pense qu'on s'est recroisés juste vite, mais ça doit faire facilement un an. Là, où est-ce qu'on.
C'était l'été passé, en fait.
Exact.
Justement, il y a quelque chose que je veux revenir là-dessus au cours de l'entrevue.
Parfait, très bien.
On avait été ensemble aussi parce qu'on a fait une série en 2014, ça fait déjà presque 3 ans, sur la course, où on avait abordé différents thèmes, justement, à ce niveau-là. Et depuis ce temps-là, toi, tu as parti une compagnie, justement une compagnie sur une spécialisation sur la course, la performance au niveau de cette activité sportive. Et moi, il y a une chose qui m'a vraiment impressionné de toi. Je t'avais déjà dit ça, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je trouvais que tu étais très motivant par ton attitude, c'est-à-dire tant au niveau de la personne qu'au niveau de l'athlète, triathlète. Je t'avais dit... J'aime ton attitude parce que tu m'avais déjà expliqué, tu t'es donné une sphère de 5 ans pour te développer comme athlète, comme triathlète. Donc, de prendre le temps dans notre société d'aujourd'hui qui carbure à la rapidité et aux résultats instantanés, la pilule miracle. Moi, j'avais trouvé ça fascinant de t'entendre dire « je vais prendre le temps de me développer ». Fait que j'aimerais ça savoir un peu où est-ce que tu en es rendu à ce niveau-là, dans ton développement de carrière comme triathlète.
Oui.
De voir justement si tes objectifs, tes aspirations de départ ont été réalisées ou même peut-être aller plus loin ou des obstacles. Bref, parle-moi de toi comme triathlète au départ.
Oui, bien écoute, c'est vraiment le fun parce que tu me disais que tu avais peut-être des petites surprises pour moi, puis j'en ai une pour toi que je vais te compter tout de suite.
Ben vas-y.
C'est triathlon. Moi, je me suis lancé dans le triathlon il y a à peu près 4-5 ans. Par défaut, là, je te dirais, parce que j'étais un coureur à la base, ma distance de prédilection, c'était le 21 km. En raison des blessures, bien, j'essaie de trouver des compléments d'entraînement. Donc là, je suis tombé dans le vélo. Puis, comme je suis un gars de défi, là, je me dis, bon, mais il me manquerait une discipline pour commencer le triathlon. Fait que c'est comme ça que ça a découlé. Là.
Il restait la nage.
Il restait la nage. Puis d'ailleurs, la nage, ça n'a pas été facile dans les débuts. Mais c'est ça fait 4-5 ans que je pratique et peut-être même que je pourrais te dire que je pratiquais le triathlon parce que c'est très récemment que j'ai décidé que je ne faisais pas de triathlon cette année.
Ah, okay.
Oui. Oui,
Donc, tu m'apprends quelque chose.
Oui, je t'apprends quelque chose. Ça reste que je trouve que c'est un sport magnifique, mais pour des raisons probablement aussi qu'on on va discuter des objectifs là, et tout. Où est-ce que j'ai révisé là, ces derniers pour pouvoir m'assurer que je gardais le plaisir dans ma pratique sportive? Parce que, encore une fois, le triathlon, c'est un sport qui est quand même assez exigeant. Ce que j'aimais, moi, comme distance, c'était le demi-Ironman. D'aller plus haut vers les distances complètes Ironman, je trouvais ça trop long. Là,
par juste contre, pour que les gens situent peut-être les néophytes, la différence entre un demi-Ironman et un Ironman, c'est quoi les distances selon les disciplines?
C'est les distances, bien, les 4 distances principales, le sprint, l'olympique, le demi-Ironman et le Ironman. Puis on ne fait que doubler à peu près à chaque fois la distance.
Donc on part de et on arrive à?
On part de 750 mètres de nage, 40 km de vélo avec un 10 km de course. Après ça, on double, donc on tombe dans 1,5 km de nage. Là, c'est 90, fait que c'est à peu près le double. Okay. 21 km de course. Après ça, on redouble encore. Là, c'est 1900 mètres de nage,
Donc, 1,9 km de nage.
Exact.
Et après ça, tu as la
en fait,
course.
En fait, c'est le sprint, excuse-moi, c'est 20 km. Après ça, quand on tombe dans l'Olympique, c'est 40. Okay. Parce que j'avais dit 90. Quand on tombe dans le demi-Ironman, c'est 90 km de vélo après avoir fait 1,9 km. De nage, on fait un 21 km par la suite. Puis après ça, ben, je pense que je me suis trompé aussi dans mon...
Ça double à chaque fois.
Ça double à chaque fois. Okay. Puis pour terminer après ça avec un 3,5 km de nage, 180 km de vélo et un 42 km pour le full.
Wow!
Pour le full.
Donc au total, en termes de durée, ça peut prendre pour quelqu'un qui est dans la moyenne, disons, peut-être pas le top athlète et la personne qui débute,
11-12 heures.
Wow!
En bas de 11 heures, les gens commencent à prendre probablement l'entraînement un petit peu plus au sérieux, tout dépendamment de l'expérience aussi de la personne. Mm-hmm. Mais il y a quand même une bonne proportion qui peuvent terminer en haut de 12 heures. Ça,
wow.
C'est un gros investissement.
Oui, parce que ça te prend du temps pour arriver, je suppose, à être capable, je pense qu'on peut dire, d'endurer ce type d'épreuve. Ça doit être une épreuve à la fois physique et mentale. Parce que le mur qu'on peut entendre chez les gens, parfois au niveau du 30e kilomètre d'un marathon, là, tu l'as possiblement dans trois épreuves différentes sur une même compétition.
Oui. Vers la fin. Surtout, en fait, je pense que c'est au début de la course.
OK.
Les gens là, peuvent commencer à se poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là?
Puis le corps doit te le dire aussi, j'imagine.
Le corps le dit, mais il y a toujours... Dans des événements comme ça, il y a beaucoup de gens qui encouragent. Il y a un peu d'orgueil, je crois aussi, que les gens veulent finir un Ironman. Mm-hmm. Mais ça reste quand même une journée que les gens aspirent. Fait que quand ils arrivent, c'est plus le temps d'abandonner. Là, mm-hmm. on fait ce qu'on peut pour le reste du 42 km. Pour certaines personnes, c'est plus difficile. Il y en a d'autres qui sont capables de bien le faire. Mm-hmm. Mais ça reste qu'à partir de la course à pied, on se pose beaucoup de questions.
Ben justement, je trouve que c'est intéressant de ramener l'aspect plaisir parce que tu sais que tu as revisité un peu tes objectifs oui. de départ comme triathlète.
Oui, effectivement.
Parce que moi, je me souviens que au moment où on s'est posé ces questions, tu débutais, c'était alors que tu étais l'un de nos... pas cobayes, mais plutôt... Tu faisais nos exercices lors d'une série de vidéos sur la musculation, les méthodes d'entraînement avec deux autres kinésiologues, Martin Lucier
oui.
et Pierre-Marie Toussaint.
Oui.
Et tu étais l'une des deux personnes qui faisait les mouvements dedans. Et je pense que c'était dans tes débuts pas mal, parce qu'on remonte à il y a
j'étais encore
3,
au bac
4.
À ce moment-là.
Donc,
plus que 4
plus
ans.
Plus que 4 ans déjà? Oh
oui.
My God! OK. Et donc, tes objectifs étaient très... spécifique, tu savais où tu t'en allais, tu avais une ligne droite. Là, en vieillissant, en ayant eu cette expérience-là, tu dis que tes objectifs ont changé.
Oui. Objectifs sportifs ont changé en raison de ma profession. Le travail commence à prendre de plus en plus de temps dans une semaine, plus de temps que je veux bien investir parce que quand même, c'est mon gagne-pain. Mm-hmm. Donc, l'entraînement doit être mis un petit peu plus de côté. Alors, pour continuer à faire du demi-Ironman, compte tenu que je suis très performant puis que j'aime la performance, je veux pas le faire juste pour le finir, mais le finir vite, j'ai réalisé que ça devenait un petit peu trop challenger.
OK.
Puis à ce moment-là, fatigue s'installe, les blessures. Alors là, je me suis dit que j'allais prendre une petite pause cette année puis me concentrer sur le vélo.
Okay.
Et recommencer à courir tranquillement. Parce que la course reste quand même une passion. Mm-hmm. Amour-haine, peut-être.
OK. Ouais, OK. À quel niveau? Enfin, j'ai entendu ça souvent, mais j'ai remarqué que la perception ou bien l'idée derrière ça est très personnelle entre l'amour et la haine. Donc, toi, ça serait quoi le volet amour et quoi le volet haine?
Amour, je pense que c'est pour la liberté que la course offre.
OK.
C'est quand même assez simple de se dire « bon, je vais mettre ma paire de souliers, je vais partir à courir. » Tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. Mm-hmm. Si je fais un comparatif, par exemple, avec les autres disciplines du triathlon, quand on va nager, c'est toujours une organisation là, en tant que telle pour se rendre à la piscine puis tout ça.
Okay.
Le vélo, tout dépendamment les moyens des gens. Quand j'ai commencé à courir, j'avais pas les moyens de m'acheter un bon vélo, donc bon... Alors là, c'est pour ça que la course restait pour moi une façon assez simple de m'évader. Puis je viens aussi des sports. J'ai joué au soccer élite, puis au football élite aussi. Donc, il y avait quand même une portion de course qui était là à l'intérieur que j'ai retrouvée par la suite, mais en faisant de la course de fond.
OK.
Je pense que j'ai eu un coup de foudre en visualisant des documentaires de biomécanique aussi. Fait que ça a alimenté ma passion par rapport à la course à pied. Puis la haine, c'est parce que c'est un sport qui est difficile. C'est difficile pour le corps.
Mm-hmm.
Je suis un coureur, je reste aussi orgueilleux. Donc, quand ça va moins bien, on est déçu des fois. On ne peut pas toujours s'entraîner parce qu'il y a des blessures qui viennent.
Mm-hmm.
C'est inévitable. Il faut juste savoir comment bien les contrôler. Puis des fois, on en fait un petit peu trop. En tant que professionnel de la santé, je dis aux gens, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Non!
Alors, à un certain point, des fois, c'est fâchant parce qu'on ne peut plus la pratiquer comme on le désire.
Ouais.
Donc, pour ça, de prendre une petite pause cette année, de recommencer à courir, mais vraiment simplement, bonnement, de façon spontanée, c'était pour moi l'objectif de recommencer à courir. Puis de retrouver un peu plus cette passion-là, parce que je la trouvais difficile cette année.
T'avais vraiment... C'était plutôt... C'était-tu rendu une corvée jusqu'à ce point-là? De dire, faut que je le fasse?
Oui.
OK.
Oui, je pense que... Oui, définitivement, parce que j'étais inscrit, exemple, pour le demi-Ironman de Tremblant. Là, tu t'inscris un an à l'avance, parce que 48 heures après, c'est sold out.
OK.
Alors là, tu as ça en tête, tu te dis, bon, il faut que je me prépare pour le jour J.
Ouais.
Puis le plus ça avance, le plus il y a du travail, le plus tu trouves moins de temps de t'entraîner.
Mm-hmm.
Là, ça commence à te trotter en tête. Là, il faut que j'aille courir. Là, c'est plus je vais aller courir, ça va me faire du bien, ou ah, j'ai hâte d'aller courir. Là, c'est il faut que j'aille courir. Puis quand tu commences à avoir ce discours-là, je pense que c'est le moment de
prendre du recul.
C'est ça. Peut-être pas d'arrêter nécessairement, mais c'est de prendre du recul puis de voir réviser les objectifs.
Ouais.
Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de ne plus aller faire le demi-Ironman. Puis j'ai eu d'autres opportunités de vélo. Fait que pour ça, c'est mon année vélo, en fait.
Okay.
Je m'en vais en Islande faire un fundraiser de 36 heures en
wow.
équipe. Alors, je me suis dit, ben, compte tenu, je me suis déjà bien spécialisé à la course, je vais me spécialiser un petit peu plus au vélo.
Okay.
Ça va me donner...
Fait qu'au lieu de voir ça comme un arrêt, c'est une opportunité de te développer à un autre niveau.
Exact.
Et à ce moment-là, tu pourras, je suppose, ramener ces nouvelles connaissances-là dans le triathlon. Et
exact.
Là, tu pourras peut-être plus égaliser justement cette passion du vélo avec la passion de la course.
Oui.
Il va rester juste à trouver quelque chose pour la nage.
La nage, oui. Alors, à voir. T'sais, ça reste un très beau complément, la nage. Nager dans un lac, ça a été un gros défi.
Uh-huh.
Beaucoup de crises de panique au début.
Parce qu'en plus, vous êtes beaucoup à la... J'imagine qu'au départ, il y a une bataille justement dans l'eau. Et là, j'imagine que l'instinct de survie doit embarquer d'avoir peur de te faire donner un coup de coude, de te faire pousser dans le fond. Je sais pas, j'ai jamais fait ça à ce niveau-là, mais tu sauras me dire.
Difficile. Bien, c'est sûr que dès qu'il y a un événement, quand tu pars en groupe, il y a cette élément-là qui est difficile à gérer.
Mm-hmm.
Il y a des trucs, c'est soit de partir un petit peu plus tard, puis tout ça, mais là, je l'ai dit tantôt, quand je fais quelque chose, donc je me ramasse souvent en avant.
Et pour les auditeurs et auditrices, je confirme.
Donc, ça a été, mais surtout, juste crise de panique dans l'eau, là, simplement.
Okay.
Dans une piscine, ça va, on voit le fond. J'ai une très bonne imagination. Donc, quand je nage dans des lacs, je me demande toujours qu'est-ce qu'il y a dans le fond.
Genre, pas une crise de jazz de Steven Spielberg.
Ben, j'ai écouté beaucoup de films d'horreur.
Peut-être trop.
Puis c'est irrationnel. Là. Je vais nager, puis je vais me poser la... Tu sais, je vais me dire, il y a quelqu'un qui va me prendre un pied. Là, t'as un petit bout d'algue qui t'accroche le pied, puis là, tu deviens nerveux. Je me dis, Gabriel, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais ça reste. Fait que ça m'a pris quand même 3 ans, je pense, pour passer par-dessus ça. Des crises de panique à faire l'étoile là, dans l'eau, là, dans un lac,
okay,
là, puis à prendre une pause, puis à regarder le ciel, puis dire, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire?
OK.
Mais c'est passé par là. Puis après ça, dans les compétitions, mais là, c'est juste de... Il faut s'attendre à se faire accrocher.
Mm-hmm. Volontairement ou involontairement?
Ben, involontairement, parce qu'en même temps, tu regardes dans le fond de l'eau ou tu regardes rapidement sur le côté pour respirer. Fait que tu vois pas qu'est-ce qu'il y a en avant, okay. Tu vois pas qu'est-ce qu'il y a en arrière.
Fait que ça peut arriver.
Ça peut arriver, j'ai reçu des coups, mais il faut pas s'arrêter à là, il faut juste continuer. Okay. Il n'y a jamais personne qui m'a tiré une patte. Je sais que ça arrive des fois, hein? Il y en a qui peuvent être très, très compétitifs.
On parlait d'orgueil, d'ego.
Ouais, il y en a qui peuvent l'avoir à un autre niveau aussi.
Ouais.
Mais il faut s'attendre, ça fait partie de la game si tu décides d'être en avant puis de te lancer dans le gros bouillon.
Okay.
Mais il y a toujours l'option de prendre 5 secondes, les laisser partir, puis après ça, tranquillement remonter
exact.
Le courant.
Justement, pour rester un peu dans l'aspect triathlon, j'aimerais ça savoir, toi, comme athlète, oui, mais comme individu, c'est comme personne, comme Gabriel, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'apporte, cette discipline-là, un niveau plus grand que de dire, je vais faire je vais performer dans une discipline sportive à haute intensité. Est-ce que ça t'a développé à des niveaux beaucoup plus grands que de dire « je cours en ligne droite, je nage en ligne droite, je pédale en ligne droite »
Mais au général, pas nécessairement juste avec le triathlon, je pense que la discipline du sport que j'ai appris avec les sports élites que j'ai pratiqué m'a définitivement aidé dans ma vie de jeune entrepreneur, là, d'avoir des objectifs à court, moyen, long terme.
Mm-hmm.
C'est exemple d'avoir des pratiques. Ben, la pratique, c'est d'être au bureau puis faire ta liste de tâches de la journée.
Donc, ça t'aide à ne pas trop procrastiner, j'imagine.
Exactement.
C'est un peu comme une périodisation d'entraînement avec des trucs progressifs pour atteindre un objectif X. Tu fais un peu la même chose comme entrepreneur.
Exactement. Le triathlon, la nage, compte tenu que c'était le défi, parce que comme je disais, je faisais des crises d'anxiété. Pour moi, c'était de se dire, mais je veux passer par-dessus ça. Je veux me rendre au point où est-ce que je suis à l'aise dans l'eau. Même chose pour le travail. Il y a quelque chose que j'ai de la difficulté à faire. Je ne vais pas déplacer le problème. Je vais essayer d'y faire face puis de voir jusqu'où je suis capable de me rendre. L'intensité du sport, ben, c'est la même chose au travail. Je veux dire, faire des journées de 10-12 heures, ben, c'est de l'intensité, c'est du volume. Fait que pour moi, le sport, comme tu disais, la planification, c'est la même chose pour moi de ma vie professionnelle de kinésiologue à sportif. Fait que le triathlon était juste un autre défi que je m'étais donné pour faire face à différentes peurs, différentes lacunes que j'avais. Puis là, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver dans les prochaines années, mais peut-être je vais décider de faire autre sport. Ça risque de rester encore une fois dans les sports d'endurance, mais d'explorer à l'intérieur de tout ça les différentes disciplines. Puis aussi, c'est que ça l'occupe, ça permet de ne pas faire de niaiseries.
Hein?
C'est bon, on va se le dire.
Quand tu occupes l'esprit, quand tu bouges, quand tu utilises ton corps en général, un, tu diminues le niveau de stress, l'adrénaline accumulée. Puis ouais, effectivement, ça peut aider à moins faire de niaiseries.
Rester focus, perdre moins de temps, juste garder le cerveau actif là, aussi.
Ouais.
Je trouve que c'est quand même un volet qui est très important. Mais définitivement, je pense que sans le sport et la discipline que j'ai développée, plus au niveau du secondaire, parce que c'est là que je l'ai pratiqué plus, je pense que sans ça, j'aurais pas réussi à accomplir tout ce que je fais aujourd'hui. Je vois vraiment que ça m'a aidé à me développer en tant qu'être humain là, à travers.
C'est tes fondations, en fait.
Exactement.
Ouais. Pour être ce que tu es aujourd'hui.
Oui.
Et toujours avec Kinactif, bon, une chose que je suis posé de faire depuis, je pense, un an et demi, c'est d'essayer l'évaluation biomécanique lors du geste sportif qui est la course sur tapis roulant.
Oui.
Je sais que tu fais des évaluations justement avec des caméras, autant pour le vélo que la course, avec caméra pour voir justement avec logiciel aussi. Avec des petites, comment on appelle ça, des balles.
Des petits marqueurs.
Des marqueurs que tu mets un peu partout sur le corps pour après ça reproduire une image en mouvement un peu de comment ton corps fonctionne à la course. Fait qu'à ce moment-là, on peut savoir si tu as une perte d'énergie parce que telle ou telle portion du corps travaille moins bien, compense, et ainsi de suite. Donc, pour les auditeurs, auditrices qui comprennent bien ce que c'est, encore une fois, pour les néophytes, ça fonctionne à peu près comment, à quoi ça ressemble si, mettons, j'arrive chez vous, chez Kinactif, puis je veux me faire évaluer au niveau postural en mouvement, mm-hmm. au niveau de la course ou du vélo. Qu'est-ce qui se passe?
Ben sinon, juste une petite précision pour oui. ce qui est tout des marqueurs puis tout ça. Il y a différents systèmes qu'on peut utiliser. Il y a des systèmes 3D qui sont très complexes que j'ai utilisés, par exemple, lors de ma maîtrise. Puis là, le logiciel que j'utilise est beaucoup plus convivial. Okay. Surtout
en, c'est quoi, non? Je me suis...
C'est Darkfish.
Darkfish, ouais. OK.
Puis, il y en a d'autres là, qui existent. Moi, c'est celui-là que j'ai décidé d'utiliser. Ce qui fait en sorte qu'au lieu de voir des points se promener ou de créer des angles ou des graphiques d'angles, ouais. Là, on voit la personne. Ah, les marqueurs okay. que j'utilise à ce moment-là, c'est pour faciliter le traçage des angles pour, après ça, mieux éduquer la personne.
Je comprends.
Sinon, quand tu entres chez Kinactif pour une analyse biomécanique, j'essaie quand même de faire vivre une expérience, puis surtout de défaire les mythes mm-hmm. autour de la course à pied.
Ah, OK, je vais... Ouais, là, c'est parce que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Quand tu parles des mythes sur la course à pied, je vais me mettre ça en tête. Oui. Je vais garder ça parce que ça, je veux en parler avec toi.
Parfait.
Fait continue pour ouais. quand on entre et...
puis, l'idée de Kinactif... Notre objectif principal, c'est l'éducation. Donc, l'analyse biomécanique a différents forfaits, donc une, deux, trois séances que tu peux prendre. Mm-hmm. Puis, comment ça se passe? C'est, pour la première séance, c'est la collecte de données, surtout. Okay. Pas juste qualitative ou quantitative, donc pas juste des données d'angle articulaire, mais aussi le qualitatif de savoir comment la personne... gère ses entraînements, l'anamnèse, dans le fond, le profil sportif. Ouais. Puis, j'essaie aussi d'aller chercher des informations à l'extérieur du sport parce que, on va se le dire, la majorité des gens qui s'entraînent ne vont pas dépasser nécessairement 5 heures. Mm-hmm. Dans le 10 heures, oui, il y en a. On est peut-être dans un cercle de personnes qui s'entraînent beaucoup. Donc, pour nous, le 10 heures est atteignable d'une certaine façon.
Mais une reste... semaine tranquille.
Mais reste que la majorité des gens ne vont pas dépasser un 5 heures ouais. très fréquemment. Ce qui fait que la biomécanique, c'est ton corps, c'est ton outil, c'est ce que tu utilises dans la vie de tous les jours. Ben, ton 5 heures ne représente pas toutes les asymétries que tu peux créer à l'intérieur d'une journée. Parce mm-hmm. que la posture au travail, c'est quoi le métier que les gens pratiquent, parce mm-hmm. que ça peut avoir un impact très important.
Dans leur qualité de vie et leur geste sportif.
Exactement, parce mm-hmm. que avant de courir, il faut se tenir debout. Mm-hmm. Après ça, on marche. Après ça, on jog. Puis après ça, on commence à courir. Fait qu'il faut aller vraiment chercher au bout du continuum, parce que c'est là, souvent, qu'on retrouve les asymétries. Puis je l'explique aux gens. Mm-hmm. Si je remarque que tu as une épaule plus basse, si je remarque que tu as un pied qui est en rotation externe ou que tu marches en canard, là, on va dire, ouais. ben tu cours peut-être comme ça, mais c'est sûr que tu marches comme ça. Mm-hmm. C'est sûr que quand tu es debout, tu as une épaule. Fait que j'essaie de leur dire que oui, la biomécanique n'est pas juste là pour comprendre ta blessure. Ouais. C'est vous dire, ça, c'est à la course, c'est à cause de cet angle-là que tu te blesses. C'est surtout de leur dire, là, c'est une conséquence de la vie de tous les jours. Puis avec l'analyse biomécanique, moi, ce que j'aide à faire, c'est surtout de développer l'économie.
D'énergie.
L'économie d'énergie, la diminution des risques de blessures à la course à pied, mais je mets quand même un gros bémol. Je veux dire, avant même de penser tout de suite à ta course à pied, il va falloir que tu réfléchisses en sortant du bureau mm-hmm. à comment tu te positionnes, comment tu marches. Parce que c'est là, à faible intensité, que tu vas pouvoir
corriger
mm-hmm. de manière plus... C'est plus facile.
Ouais.
Parce qu'à l'effort, plus l'effort est intense, plus se concentrer peut devenir aussi un peu plus complexe.
Parce que tu dépenses justement beaucoup d'énergie dans l'effort, donc c'est difficile de te concentrer et de corriger mm-hmm. en même temps. Mm-hmm. Mais j'aime beaucoup, tu as dit... diminuer et non comme je vois régulièrement décrit ou dit, éviter les blessures. Mm. Moi, à chaque fois que je vois ou j'entends éviter les blessures, je fais toujours non. Diminuer les risques de se blesser parce que, excuse, mais il n'y a pas de solution miracle.
Il n'y a pas de solution miracle, puis il faut se le dire, la course à pied, c'est un sport qui est violent pour le mm-hmm. corps. c'est de sauter sur une jambe sur des milliers de pas. C'est un stress mécanique, mais qui est augmenté.
Ouais.
La force de réaction au sol est augmentée. Tu peux courir dans la rue, te fouler une cheville. L'impact, puis le stress, c'est ça qui va occasionner les blessures. Mm-hmm. Fait que si on est capable de diminuer ce stress-là, ou oui, c'est de diminuer les blessures, mais surtout d'outiller la personne pour dire, quand tu sens que tu as une petite blessure qui arrive, parce que les blessures vont toujours revenir à peu près aux mêmes endroits. Mm-hmm. On est asymétrique, on adopte des positions, des mauvaises postures, mais en... je partais avec... Je suis parti dans ma tête, là, je voyais le big picture là, de tout ça.
C'est la mais beauté c'est du direct.
Ben, tu sais, d'outiller la personne pour que, quand elle ressent une petite douleur qui survient, dire « OK, là, c'est le temps de prendre un break, c'est le temps de travailler cet exercice d'étirement-là, c'est le temps de sortir mon foam roller, c'est le temps de bien dormir. » Fait que c'est juste de bien outiller la personne pour l'aider à gérer.
Donc, développer sa perception corporelle qui va faire qu'elle va pouvoir s'adapter très rapidement et prendre des décisions réfléchies.
Exact.
En le fond, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'on pourrait résumer ce que tu viens de dire avec l'adage. Je me sais pas par cœur, mais c'est genre si tu donnes un poisson à un homme, il pourra manger, mais si tu lui apprends à pêcher, il va savoir se nourrir. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais l'idée, c'est de dire, au lieu de travailler sur juste le bobo, puis de mettre un plaster, mettre un diachylon, c'est de trouver la cause, puis de donner les moyens, les outils pour que la personne puisse se gérer, devenir autonome.
Exact.
Donc, la job de l'éducateur versus juste répondre spontanément, ponctuellement à des bobos, c'est d'éduquer les gens pour qu'ils puissent, par la suite, développer justement cette perception corporelle-là.
Effectivement. Parce que c'est la partie la plus difficile dans la pratique de faire comprendre à la personne, parce que l'on disait tantôt, ça va vite, les gens veulent que ça aille vite, ils veulent trouver tout de suite la solution. Mais la solution, des fois, elle est multifactorielle. Tu sais, c'est de voir, bon, il y a cet aspect-là à corriger, il y a cet aspect-là aussi à corriger, il y a ça aussi. Fait qu'il faut vraiment que j'éduque la personne dès qu'elle rentre dans le bureau puis qu'on parle de ça, que je lui dise de vive voix. Il faut pas que tu t'attendes à quand tu sors du bureau que tu aies plus mal. Tout va dépendre de ton autonomie.
Ta régularité.
Ta régularité face aux outils que je vais te donner.
Ça prend de la volonté, ça prend une force de caractère. Une fois seul, il faut que tu sois capable de te motiver pour faire ce que tu as à faire pour améliorer les choses.
Exact.
Autant pour l'athlète, autant pour la personne, monsieur, madame, tout le monde, et qui doit à un moment donné non seulement s'outiller, mais se prendre en main avec ces outils-là pour changer justement les choses. Puis ça prend, tu l'as dit si bien, ça prend du temps. Puis c'est difficile dans notre société d'instantané de prendre le temps. Et surtout que le corps humain, tu sais, tu disais souvent, c'est multifactoriel. Je te dirais que dans mon expérience depuis 2004, principalement, moi, je dirais c'est tout le temps multifactoriel. J'ose dire c'est tout le temps multifactoriel parce que quand je pose des questions puis je vais en profondeur, au début, souvent, ça arrive souvent que les gens vont me dire « Non, non, j'ai rien. » Puis là, à un moment donné, tu grattes un peu.
Oui.
Vraiment? « Ah ouais, c'est vrai, j'ai eu telle affaire. C'est vrai, j'ai eu une opération. » Puis là, à un moment donné, t'attends. Puis là, la personne réfléchit. « Ah ouais, c'est vrai, j'ai eu telle opération, mais aussi, c'est vrai, je suis tombé à un moment donné. » Ah ouais, t'es tombé, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, pas grand-chose, une petite commotion cérébrale. Ah, OK. Puis là, ça part. Puis là, la liste commence à s'allonger.
Exact.
Puis là, tu mets tout ça ensemble, là, tu fais OK, on a quelque chose, là.
On a quelque chose et on a du travail.
Et on a du travail et on va avoir besoin de temps.
Oui.
Es-tu prêt à prendre le temps?
Oui.
Ça, c'est la chose première, moi, en général. Puis là, après ça, c'est de dire OK, dans ta semaine, t'as 168 heures. Tu dors combien d'heures dans ta semaine? Bon, voyons voir si tu as le temps de récupérer.
Ouais.
Puis après ça, as-tu des enfants, pas d'enfants? Combien de temps tu passes en transport? Combien de temps tu passes au travail assis dans ton ordinateur? Puis là, ça part. Puis là, les chiffres s'accumulent. Puis là, tu dis, OK, il me reste tant de temps. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Puis combien de temps tu es prêt à dédier pour régler le problème? Puis là, on va travailler là-dedans.
Ouais, voilà.
Puis c'est ça.
Donc, c'est un travail assez difficile pour... Bien, difficile, mais challengeant.
Mm-hmm. Très motivant, très passionnant.
Exact, parce que quand tu réussis à trouver les bons mots pour faire comprendre ça à la personne, parce qu'elle le sait, là.
Mm-hmm.
Tu sais, souvent, elle me dit « je le sais ». Le physio me l'a dit. L'ergo me l'a dit.
Ouais.
Le thérapeute sportif me l'a dit. Mais quand tu trouves les bons mots, puis tu vois dans son visage là, qu'il vient de réaliser « OK, là, il faut que je change un petit quelque
ça
chose. »
Ça vient de là. S'allumer. Là.
Ouais.
Ouais,
tout à fait. Ou du moins, tu l'espères. Parce que tu sais pas non plus qu'est-ce qui va arriver après, parce que les suivis, c'est difficile pour quelqu'un d'avoir... de prendre du temps pour, exemple, te suivre sur des semaines. Fait qu'on essaie quand même à travers de recontacter les personnes pour voir est-ce qu'il y a eu amélioration, est-ce qu'il y a eu pratique des outils qui ont été donnés aussi.
Oui.
Fait que c'est la première partie, exemple, d'analyse biomécanique, parce qu'on va revenir, on va commencer, c'est vrai. Hein?
Bifurcation.
Fait que beaucoup de discussions. Après ça, oui, là on tombe dans l'analyse biomécanique. Ouais. Donc là, c'est sûr, idéalement, j'aimerais ça faire une analyse posturale statique de marche. Puis ensuite à la course pour avoir vraiment le comparatif.
Global.
C'est ça, pour dire, comme je te disais, c'est tu as l'épaule qui tombe d'un côté quand tu cours, mais pouvoir lui dire, regarde, je le vois tout de suite à la marche. Mais ça, je l'ai fait marcher sur le tapis. Là, c'est pas à ce moment-là que je vais prendre mes plans vidéo. Mais là, on fait l'échauffement, continue de parler. Souvent, c'est là parce qu'on dit, il y a des choses qui ressortent. On prend des notes puis on commence à reposer des questions. Échauffement, familiariser la personne avec le contexte du laboratoire, où est-ce qu'on est, d'expliquer chaque étape.
Parce qu'il peut avoir aussi le syndrome de la blouse blanche, comme par hasard, quand il y a un contexte où t'es en test, les mentalement, émotionnellement, ça peut changer chez certaines personnes, la façon de voir ça et de rentrer dans l'expérience.
Ouais. Puis j'ai déjà vu des changements de patron moteur, même l'analyse, mais ils vont partir quand je laisse le temps à la personne, exemple, de s'échauffer.
Ouais.
Puis d'expliquer ça étape par étape. Bon, là, on va commencer par marcher, puis tout ça. Une fois que l'échauffement est fait, que la personne, on a ciblé la vitesse de course à laquelle on voulait faire l'évaluation, qui est souvent la vitesse de course du continu lent, la vitesse fondamentale.
Donc, pour les gens, encore une fois, néophytes, c'est d'arriver à atteindre un niveau d'intensité que tu peux tenir. Donc, c'est sûr que tu ne dépasses pas la fonction aérobie. Tu n'arrives pas dans l'anaérobie où tu n'es plus capable de parler.
On peut le faire. C'est dans quelques cas, exemple, pour les gens qui font beaucoup de compétitions en athlétisme.
Mais monsieur, madame, tout le monde, tu vas être plus dans le fondamental.
Après ça, une fois que ça c'est fait, là, on commence les plans.
D'accord.
Je sais que toi, tu aimes beaucoup de vidéos. Avec les plans, un plan que j'ai introduit dans mon analyse biomécanique que j'adore puis qu'on ne voit pas souvent, c'est le plan, en fait, transversal, mais de vidéo.
Le plongée que j'appelle, moi,
exact,
vidéo.
Le plongée. De pouvoir voir le mouvement des épaules, le mouvement des bras, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. On parle souvent de l'attaque au sol, de la fréquence de pas, mais qu'est-ce qu'il y en est des bras? Souvent, on pose la question, j'ai aucune idée quoi faire avec mes bras.
Ben justement, c'était une de mes questions.
Okay. Ce plan-là donne déjà beaucoup d'informations. On peut sauver beaucoup de choses en termes d'économie de course à pied chez la personne.
Exactement ce dont je voulais parler.
Fait que, bon, on en reviendra alors. Fait que là, le plan de haut, le plan frontal arrière. Je pourrais faire le plan d'avant, mais c'est une côté gestion de temps et de structure
d'espace,
dans l'espace. Puis les plans sagittales de chaque côté. Fait que, les plans que les gens connaissent beaucoup, là, les vues de côté.
Oui, tout à fait.
Une fois que ça c'est fait, là, on tombe vraiment dans l'éducation de la biomécanique de course à
pied.
Donc
là, tu prends ce que tu as vu en vidéo avec la personne, tu regardes pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle fait par l'image vidéo.
Oui.
Fait que, est-ce qu'il y a des gens, parfois, qui font le saut, genre, oh boy, je pensais jamais que c'était comme ça, je courais.
Toujours.
Toujours? OK, c'est pas des fois, c'est toujours.
C'est toujours.
OK.
On voit toujours un petit sourire en coin quand on commence à faire jouer les plans. C'est très cocasse, là. C'est le fun parce que là, les gens, là, ils sont confrontés à la réalité de comment ils courent.
Est-ce qu'il y en a qui sont à ce moment-là dans le déni, genre, non, ça se peut pas, c'est pas moi?
Ben là, ils n'ont pas le choix, de un, parce que là, c'est eux. Mais exemple, on parlait d'attaque tantôt, mais tu sais, de dire, mais je pensais que j'attaquais du devant du pied.
Okay.
Puis là, tu dis, ben, t'attaques avec le talon. On en reviendra. Je sais, c'est pas grave.
Oui, oui, mais c'était deux questions que je voulais clarifier avec toi.
Mais mes bras sont comme ça. Je suis incliné de telle façon. Oh, j'ai de l'air bizarre. Mais tranquillement, puis là, quand je commence avec les explications, ils comprennent un petit peu plus là, pourquoi ils sont comme ça. Puis là, à ce moment-là, oui, on regarde l'analyse dynamique en course à pied. Mais là, vient le temps de faire tous les liens avec la posture qu'on
discute au
quotidien.
Oui, oui, oui. Donc, ce que tu vois, toi, dans le geste sportif, dans ce qui les passionne et veulent se dépasser, ça te parle aussi sur qui ils sont dans la réalité quotidienne, dans la majorité du temps qu'ils passent à bouger, finalement, ou à ne pas bouger.
Oui, parce que je les regarde du moment qu'ils rentrent dans mon bureau.
Exact.
Ils vont marcher vers la chaise, ils vont s'asseoir, ils vont adopter une posture.
La posture dans la réaction de ce que tu leur dis.
Exactement. Ça fait que tu te dis, là, tu vois, tu as les pieds comme ça. Tu marches tu cours un petit peu les pieds vers l'extérieur. As-tu remarqué que tu marchais les pieds vers l'extérieur? Ah oui, OK. Tu me dis que tu avais une tension à tel endroit. Tu me dis que dans ta profession, tu faisais telle chose. Est-ce que tu as pensé que tu pourrais peut-être accumuler cette tension-là, mais qu'elle apparaissait peut-être un petit peu plus intensément quand tu courais?
Ah
oui. Tu sais, ça va même jusqu'à la personne qui se promène beaucoup en voiture, qui conduit manuellement, la clutch, puis tout ça, une tension qui est toujours plus d'un côté, les épaules plus croche, le bras à côté,
c'est bord de la fenêtre. Surtout l'été quand il fait beau.
Exactement. Fait que là, on va voir beaucoup d'épaules croches.
Exact.
Puis là, tranquillement, c'est pas de dire c'est à cause de tout ça, mais c'est de lancer des hypothèses, puis de faire réfléchir la personne. Puis là, souvent, là, je commence, là, je pose des questions, puis là, la personne va même renchérir en disant « Hey, c'est vrai quand… » Parce que là, comme tu dis, là, ça commence à ressortir.
«
Ah, c'est vrai, je me positionne toujours de cette façon-là quand j'attends l'autobus ou quand je suis debout,
quand
je parle à quelqu'un. »
Quand je tiens mon enfant, toujours sur la même hanche.
Exactement.
Quand je vais faire l'épicerie, j'ouvre toujours la porte avec ma clé de telle main, j'ai les sacs de l'autre main.
Exact.
Tous les gestes du quotidien qu'on prend pour acquis, on ne pense plus, dans le fond.
Exactement. Tout ce qui est devenu habitude. Alors là, c'est là que je trouve qu'il est la beauté de l'analyse biomécanique, puis que je sais que la personne commence à prendre conscience tranquillement que sa posture au quotidien va avoir un impact après ça sur tout le reste.
Et la course sert d'accentuer, dans le fond, les effets de ces utilisations-là de la posture au quotidien, parce qu'avec les impacts, quand on est debout, mettons, tu as ton poids, si évidemment tu es bien réparti au niveau postural sur l'ensemble des articulations, à peu près une fois ton poids. Mais lorsqu'arrive le temps de la course, c'est quoi 3, 4, 5 fois
C'est 3, 4, 5 fois, c'est exagéré, je te dirais, au quotidien. Quand on va courir, parce que tu as quand même un.
Oui, non, je parle juste sur la course.
C'est ça, à la course.
Ouais.
Fait qu'exemple, une fois et demi le corps. Mais après ça, quand on tombe, parce que c'est vrai qu'il y a des études qui vont dire que tu as 3-4 fois.
J'ai lu ça plus. Puis c'est jamais exactement pareil d'une étude à l'autre. J'ai vu des 3, des 4, des 5. J'ai déjà vu jusqu'à 6 il y a longtemps. À un moment donné, tu fais OK, je ne le sais plus là exactement.
Ouais, c'est pour ça vient défaire les mythes. Fait que dans le fond, c'est d'expliquer à la personne en fait, qu'on parle d'attaque, qu'on parle de poids de corps, il faut toujours que tu regardes la population cible qui a été utilisée pour l'étude.
Je veux
dire. On ira regarder tantôt là, pour le fun.
Mais mettons une moyenne.
Quand tu tombes, une moyenne 1,5, 2 fois, je te dirais. Okay. Mais quand on tombe dans le 3, dans le 4, là, il faut regarder la vitesse qui a été prise. Est-ce que c'est une accélération? Est-ce que c'est un sprint? Parce que c'est vrai que quand on tombe dans le sprint, dans les premiers pas, parce que là, tu dois accélérer une masse, tu dois développer beaucoup de force au niveau des membres inférieurs ou au sol pour pouvoir te propulser. Est-ce que ça a été fait dans des sports autres que la course à pied? Que la course en tant que telle, est-ce que c'est du football, est-ce que c'est du soccer? C'est pour ça qu'on peut aller chercher du 4, 6, 5 fois le poids du corps. Mais en même temps, pour faire un petit parallèle avec ça, c'est si tu sautes une chaîne de trottoir en courant, que tu passes, exemple, du trottoir à la rue, le 10 cm de décalage entre le trottoir et la rue va faire en sorte que tu vas tomber à 3,
4 fois. Avec l'accélération et l'impact.
Exact. Ouais. C'est souvent là aussi que les gens peuvent se blesser. Je leur explique, c'est quel trajet tu utilises quand tu cours? Est-ce que tu sautes? Est-ce que tu passes par une chaîne de rotatoire? Est-ce qu'il y a une descente?
Donc, les surfaces sont différentes.
Exactement.
ça peut être, mettons, j'imagine aussi, dépendamment, est-ce que tu cours en forêt avec des surfaces qui sont instables, ou est-ce que c'est plus de la roche, de la pierre, du béton? Donc, l'absorption,
est-ce que tu descends, montes,
exact, les pentes ascendantes, descendantes.
Fait que le contexte environnemental où, où est-ce que tu cours va avoir un impact sur ça. Mais on, d'ordre général, mettons, on va dire une fois et demie, deux fois, là, sur un terrain bien plat. Là,
mais ça démontre à quel point l'état de la posture aura une influence justement sur, autant que c'est possible, diminuer les risques de se blesser pour répartir le plus équitablement chaque impact sur les articulations, mais aussi pour que les muscles réagissent au mieux avec un effort qui est dur pour le corps, on ne se fait pas de cachette.
La course à pied, c'est un sport qui est très difficile pour les articulations. Ce n'est pas de dire que c'est dommageable. C'est toujours dans une question de dose. C'est pour progresser, tu dois induire à ton corps un stress.
Un stress mécanique qui va déclencher un mécanisme d'adaptation.
Exactement.
Oui.
Mais ça devient dommageable quand il n'y a pas cette période de récupération-là pour pouvoir créer les adaptations et ensuite essayer d'aller chercher un stress supérieur à celui qu'on est allé chercher.
Bon, on avait parlé dans la série qu'on a fait ensemble, qui est sur YouTube.
Oui.
On le disait, ne voyez pas la récupération comme une perte de temps. Ça fait partie de la périodisation au même titre que les moments où vous vous entraînez. Donc, les moments d'entraînement, vous vous blessez, vous créez des déchirures des microscopiques au niveau musculaire, puis la récupération, c'est là que tu renforcis, dans le fond, ton système. Mais souvent, moi, j'entendais « Ah, c'est une perte de temps. » Non, 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 c'est pas une perte de temps. T'en as besoin.
C'est primordial. C'est peut-être même plus...
C'est capital.
C'est peut-être même plus important qu'en fait l'entraînement. Parce que l'entraînement, c'est pour induire le stress. Mais après ça, tes adaptations, c'est... Là, comme on parlait, c'est multifactoriel. Bien là, dans ta récupération, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le vendredi, c'est ta journée off? Ben, tu décides, écoute, c'est ta journée où est-ce que tu manges de la junk food? C'est la journée où est-ce que tu te couches tard? C'est la journée où est-ce que tu consommes de l'alcool? Est-ce que... Fait que oui, tu t'as pris une journée de repos, mais est-ce que tu l'as maximisé?
Oui.
Puis là, après ça, c'est quand tu retournes t'entraîner, le corps, lui, il n'a pas fait ses adaptations. Il n'a pas eu ce qu'il avait besoin pour créer ses adaptations. Puis là, sans savoir ou juste... On se dit, ben pourquoi j'ai pris une ou deux journées de repos?
Mais je suis pas entraîné.
Tu t'es pas entraîné, mais tu n'as pas maximisé
ta récupération, exact.
Fait que là, c'est pour ça. Fait que, non, je dirais même que le repos, c'est vrai que c'est un pour les gens, ils voient ça comme un mal, mais c'est un mal nécessaire. Puis c'est pas un mal, en fait.
Ben non, tout à fait.
C'est beaucoup plus important parce qu'en termes de planification, exemple, parce que j'en fais beaucoup avec les gens... Mon rôle, c'est de trouver le meilleur moyen pour placer les repos. Parce que l'entraînement, je peux dire à la personne qui est là, tu t'en vas faire de l'entraînement par intervalle. OK, mais là, selon qu'est-ce qu'elle fait? On reparle de la profession.
Ouais. Si elle a un travail, exemple, très, très actif.
Exactement.
Versus si on pourrait faire un exemple pour situer les gens. Si, exemple, vous êtes quelqu'un qui serait un travailleur, une travailleuse sur la construction, puis que à la journée longue, pendant 7, 8, 10 heures, vous transportez des poches de ciment, vous frappez à coups de masse ou whatever, versus la personne qui travaille assis à son bureau, la dépense énergétique ne sera pas la même. Le niveau de fatigue ne sera pas le même non plus. Donc, les récupérations ne seront pas les mêmes non plus.
Ils ne sont pas pareils. Puis
les postures, les répétitions de mouvements ne sont pas les mêmes. Les répercussions sur le corps, la posture.
Mais je te dirais que même la personne qui est assise versus celle qui est très active, on va quand même trouver quelque chose. Exemple, même si tu ne dépenses pas beaucoup d'énergie dans ta journée puis que tu es resté assis, tu es resté dans une posture...
Tout à fait, tout à fait.
T'es assis, les fléchisseurs de hanches sont tout le temps contractés. Puis là, tu décides d'aller
faire dans le tapis.
Fait que un ou l'autre, on peut quand même trouver. Mais c'est vrai que la personne qui a un travail très physique, de placer des entraînements à haute intensité, chose qu'on met pas tout le temps non plus, là, d'ailleurs, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Les gens veulent... c'est le no pain, no gain.
Je connais très bien.
C'est toujours de dire, OK, là, je te mets cet entraînement-là. Mais le lendemain, va-t'en pas refaire d'autres intervalles ou fais une activité à faible intensité pour te permettre de récupérer et cool down un petit peu plus. Fait que mon rôle, c'est vraiment un gestionnaire de repos.
C'est un peu comme tirer sur la bride du cheval de course. Et, OK, tu feras pas des sprints de 100 mètres à tous les jours. Puis c'est sûr que si tu vas faire le party dans ta journée de repos, puis tu te défonces en bouffe, en alcool, comme tu disais tout à l'heure, ta récupération sera peut-être pas optimale pour arriver à tes performances que tu souhaites par après. Écoute, on parlait, tantôt tu parlais, puis j'aimerais ça revenir à ça parce que on en entend parler tellement des fameux mythes versus les réalités. C'est quelque chose que j'avais fait encore une fois avec où tu étais participant dans notre série, mini-série de 4 vidéos avec Martin Lucie puis Jean-Marie Toussaint. Pierre-Marie Toussaint.
Mes enseignants, d'ailleurs.
Exactement.
Ils m'ont enseigné.
C'était très drôle parce que c'est là, toi et moi, on s'est rencontrés la première fois. Puis après ça, bon an, mal an, c'est allé vers la série qu'on a fait en 2014. Et aujourd'hui, dans ce podcast, comme quoi. Et tout ça pour dire que moi, il y a trois choses. Les mythes réalités que tu allais parler tout à l'heure. Il y a aussi l'attaque au sol que j'aimerais qu'on revienne parce qu'on en entend tellement parler. Et il y a quelque chose que tu m'avais dit l'an passé quand on s'est rencontrés par hasard sur la rue dont tu m'avais parlé. Et aussi au niveau du mouvement à l'épaule, de l'articulation à l'épaule, qu'est-ce qu'on fait avec les bras. Donc, je vais commencer par l'attaque au sol. Tu m'avais dit l'an dernier que tu avais commencé à faire des plus longues distances à un moment et que tu étais habitué de faire des attaques plus milieu avant-pied. Et quand tu as commencé à faire tes plus longues distances, tes mollets ont eu une réaction. Et
ils ont été choqués.
C'est les deux belles roches. Donc, tu avais commencé à faire plus d'attaques mi-pied, talons, si je me souviens bien, avec l'allongement des distances. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques pour le néophyte ou même d'autres peut-être qui ne savent juste pas et qui sont habitués de courir. Pourquoi tu as fait ça? Donc, quelles ont été les réactions au départ que tu m'as expliqué et quelles ont été, qu'est-ce que tu as ajusté et pourquoi au niveau de l'attaque au sol?
Je suis un coureur de type, je te dirais, peut-être plus agressif. Donc, le devant du pied, pas agressif. Non, je ne me mets pas je me mets pas à envoyer promener les gens quand je cours. Non, c'est pas ça. Mais une bonne attaque devant le pied, développement de force beaucoup au niveau du sol. Je viens du soccer puis du football. Donc, moi, sprinter, j'aime ça. C'est sûr, quand on commence à faire de la longue distance, on peut pas sprinter sur 21 km. Mais reste que le devant du pied, pour moi, était quelque chose quand même d'assez naturel. Parce que plus on court vite, plus le devant du pied devient optimal d'une certaine façon. Avec l'allongement des distances, accumulation de tension au niveau des mollets, des pieds.
Tendon d'Achille, tu sentais-tu
tendon d'Achille, fasciite plantaire, fait tendinopathie au niveau du talon, juste même des tensions au niveau des mollets, avoir des bosses, des nœuds musculaires.
Inflammation possiblement aussi.
Là c'est sûr que c'est pas, comme on dit tantôt, c'est pas nécessairement la course, mais c'est qu'à ce moment-là aussi, je courais beaucoup. Je faisais pas attention. Fait qu'il y a cette portion-là aussi qu'il faut...
Il y a un build-up quand même, une accumulation.
C'est ça. C'est pas que l'attaque du devant de pied m'a blessé. Là, c'est que peu importe l'attaque qu'on va adopter, il y a un risque de blessure. C'est qu'un le stress, il y a un stress mécanique, peu importe. C'est juste qu'il est dirigé à un endroit différent. Donc, attaque beaucoup devant le pied, longue foulée aussi, plus longue foulée, donc l'impact au sol aussi peut être augmenté d'une certaine façon, ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à développer plus de blessures. J'ai revu aussi un petit peu, avec mes études, c'est ça, avec la maîtrise, la lecture, j'ai approfondi un petit peu plus le sujet, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'attaque de devant le pied côté performance.
Et juste pour, encore une fois, pour les auditeurs, auditrices, quand on dit l'attaque avant-pied, c'est sûr qu'il y a une répercussion au niveau du mollet, au niveau du tendon d'Achille pour emmagasiner l'énergie, redistribuer l'énergie lors du mouvement. Mais en même temps, quelqu'un qui n'a pas de mobilité au niveau de l'articulation de la cheville ou de flexibilité au niveau musculaire, facial, au niveau du mollet, au niveau du tendon, c'est sûr que ça donne un méga impact à chaque fois.
Le choc est beaucoup plus...
Il est grand, là.
Exactement.
L'angle au niveau de la cheville s'accentue. Donc, c'est très intéressant d'un point de vue de performance, mais d'un point de vue d'impact sur le corps, ouch!
Oui. Puis, ça vient avec l'expérience de la personne. Quelqu'un qui commence à courir... moi, j'avais le background du coureur, du sprinteur au soccer puis au football. Donc, mon corps s'était adapté de cette façon-là.
Ta posture allait avec le geste attaque à milieu pied.
Mais je les mollets développés d'une certaine façon, la rigidité au niveau des tendons. J'ai un bon background
tout à fait
au niveau de la course à pied puis du développement de la force des membres inférieurs. Fait avec l'accumulation des tensions, blessures, avec les lectures, j'ai réalisé qu'on était quand même capable d'adopter des bons comportements d'attaque au sol, même en essayant d'attaquer avec le talon. Puis c'est toujours, là, c'est sûr qu'on... les auditeurs nous entendent et ne voient pas, mais on voit toujours l'image, n'attaquez pas avec le talon, avec le genou barré, les orteils pointés vers le haut, puis le pied vraiment en placé avant, en avant de soi.
Qui nous freine, qui donne un choc.
Oui, bien là, c'est sûr que si on fait juste dire que attaquer avec le talon, c'est ça, là, c'est sûr, je vais te dire, regarde, c'est pas vrai. Là, c'est
tout à
pas,
fait.
Puis même à l'inverse, le devant du pied, est-ce que c'est de courir sur les orteils? Non plus. C'est surtout à la course de fond, on va rester dans cette spécificité-là. C'est un milieu talon ou un milieu devant. D'attaquer mid-foot, c'est extrêmement inconfortable. Quelqu'un qui décide vraiment d'attaquer avec le point de pression
en
bien
centre.
Réparti, ça se fait pas. Fait que c'est toujours... On joue à la limite du milieu du pied, soit un petit peu vers l'avant, soit un petit peu vers l'arrière. Somme tout, c'est juste de développer le bon comportement.
Et toi, tu as développé, après ça, justement, plus mi-pied arrière, mi-pied talon, avec l'allongement, comme tu disais, de la distance, mais aussi la répercussion sur le corps.
Oui, puis j'ai pas, en fait, changé en me disant « je vais commencer à attaquer avec le talon ». J'ai seulement pris certaines portions de ma course pour me dégourdir, comme j'appelle. C'est de me dire « OK, là... » Je sens que les mollets commencent à être tendus un petit peu plus.
Oui.
Je change un petit peu ma technique. Donc, je passe de mon avant milieu de pied à milieu de pied vers talon. Une minute, deux minutes, puis après ça, je repars.
OK.
Mais en situation de course, là, c'est, comme je disais, c'est, j'aime ça aller vite. Donc là, c'est sûr que je vais prioriser mon attaque devant de pied. Puis pour donner une idée, mettons, de la vitesse... Parce que la vitesse a un énorme impact sur l'attaque au sol qu'on peut adopter. Je courais des demi-marathons à ce moment-là en 1h24.
Hey boy,
donc,
okay.
Je courais entre 14 et 15 km/h. Donc, c'est une bonne vitesse.
Oui, oui. Avec une cadence de 160, 175.
La cadence devait probablement être autour de 180, mais on va y revenir. On va y revenir. On va y revenir à ça. Parce que je courais à cette vitesse-là.
Oui.
Demande à quelqu'un de jogger à 180 pas minute, c'est très inconfortable.
Tout à fait.
Alors, j'ai pas changé mon attaque parce que reste que je suis quand même très à l'aise avec le devant du pied. Quand je cours vite, quand je fais mes intervalles, mais quand je fais mes longues sorties de continu lent, fondamental, parce que là, je me situe autour du 12 km/h environ. À ce moment-là, oui, j'utilise beaucoup plus le talon à certains moments, tout dépendamment, encore une fois, le dénivelé. Fait que c'est juste c'est des outils. C'est de les voir comme des outils puis de bien les utiliser au moment opportun.
Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait dire, ce n'est pas tellement de dire ça c'est bien, ça c'est mal, de sortir un petit peu de cet esprit de dualité de toujours entre bien et mal, mais de faire, ce sont deux façons de faire et c'est d'avoir suffisamment de perception corporelle pour reconnaître le langage du corps, ce qui t'indique comme information, et de là s'ajuster et de faire des tests, mais toujours dans le respect du corps. Donc, un peu comme... Je vais faire un parallèle, tu me diras ce que t'en penses. Il y a plusieurs années maintenant, j'avais acheté des souliers minimalistes, des Five Fingers, puis j'avais entendu parler, lu sur la grosse controverse qu'il y avait eu à un moment donné des poursuites judiciaires parce que des coureurs s'étaient blessés et que ce qui avait été dit en termes publicitaires par la compagnie était théoriquement mensongère parce que c'était supposé révolutionner la course puis diminuer les blessures. Puis à un moment donné, moi, ce que j'ai lu dans tout ça et ce qui en est ressorti, c'est de dire « Ouais, mais attends un peu, si toute ta vie, tu as fonctionné avec des maximalistes avec une drop assez élevée et des coussins amortisseurs et qui ne donne peut-être pas le feedback d'un minimaliste aussi au niveau de ton corps, bien, c'est sûr que si du jour au lendemain, tu pars avec des mollets assez tendus, tendons d'Achille assez tendus, pas une bonne mobilité à la cheville avec un maximaliste, puis tout d'un coup, tu tombes avec un minimaliste où là, ça cogne, bien oui, peut-être que tu risques d'augmenter les chances, les risques de te blesser. Fait que moi, j'ai pris quand même sérieusement une bonne année à 2 ans. Quand j'ai acheté les Five Fingers, j'ai marché au début 5 minutes. That's it. Puis là, après ça, j'ai augmenté tranquillement. Puis là, j'ai allongé mes distances. Puis quand je suis arrivé à une distance d'1 à 2 heures à marcher avec ça et à être parfaitement confortable, rien ressentir de bizarre, Là, j'ai fait 2 minutes à courir. That's it. Puis tout de suite, je le sentais des mollets. Là. C'était pas pareil. Là. Parce qu'en plus, sans drop, tu le sens que ton corps, ta posture n'est pas pareille. Ton angle n'est pas pareil et la répercussion sur ton corps. Fait que moi, je ferais un parallèle un peu entre c'est pas nécessairement c'est bien, c'est mal, telle ou telle attaque, un peu avec le minimaliste, le maximaliste. C'est de reconnaître qu'il y a des différences et ça prend un temps d'adaptation aussi. Oui. C'est d'expérimenter avec respect et écoute du langage corporel. Fait que je sais pas ce que tu en penses, mais.
Définitivement. C'est toujours dans la progression. Puis
exact.
Moi, ce que je dis aux gens sur ça, c'est pas blanc ou noir, mm-hmm. c'est 50 Shades of Grey.
Sans rentrer dans les 50 Shades of Grey.
Ça fait toujours rire. Ouais, mais on comprend quand même, c'est que ouais. C'est toujours un continuum.
Ouais. C'est puis, un processus d'apprentissage.
Ouais, puis si tu veux que je te sorte des études sur le devant du pied, c'est la meilleure façon de courir, je vais te les sortir. Si ouais. tu veux que je te sorte des études sur l'attaque talon est majoritaire chez 80 % des gens, je vais te les sortir. C'est juste dans le contexte dans lequel ils sont écrits. Mm-hmm. Parce que le contexte, souvent, les gens vont souvent au résultat, mais ne voient pas le build-up, ouais. donc le contexte de l'étude.
Mais le contexte, c'est tout le processus d'effort. Mais quand tu veux vraiment le résultat, c'est facile d'aller chercher ce que tu veux pour confirmer tes attentes, tes objectifs. Puis c'est très, très facile, ça.
Oui. Ouais. On peut tout trouver, là. Toutes tout les réponses fait. Sur tout qui vont te satisfaire, toi. Ouais. Mais si tu n'explores pas autour du sujet, ben pour toi, c'est comme si tu avais des œillères et qu'il y avait juste une solution.
Tout à fait.
Il n'y a pas d'autre chose.
Et d'arriver à confronter peut-être tes idées stéréotypées aussi et d'avoir l'humilité de faire « OK, ça défait un peu tout ce que j'avais en tête, mais voyons voir, allons plus loin. Pourquoi cette étude-là ou cette personne-là dit ça? Je garde l'esprit ouvert et j'écoute.
Oui. »
Effectivement.
Fait que l'attaque au sol va aussi... Mettons, si on rejoint avec l'analyse biomécanique, c'est dépendamment de la vitesse à laquelle je fais courir la personne, son expérience.
Ouais.
Je peux lui expliquer c'est quoi la différence aussi entre le talon et le devant du pied. Mm-hmm. Puis j'invite les gens à essayer les deux. Si c'est une personne qui attaque déjà avec le talon, je dis essaie tranquillement, de temps en temps, le devant du pied, juste pour voir qu'est-ce que tu vas ressentir. Mm-hmm. Mais garde en tête que cette attaque-là va devenir de plus en plus optimale plus tu vas courir vite.
Mm-hmm. Ouais.
Tandis que la personne qui, en fait... Parce que la vitesse de transition marche-course va se faire autour de 7 km/h-ish. Okay?
Ouais.
Tout dépendamment de la longueur des jambes.
Ouais.
C'est-à-dire la longueur.
Puis l'efficacité du geste technique aussi.
Exact.
Puis ouais.
Fait que, dès qu'on dépasse cette transition-là, ça ne veut pas dire que tu tombes tout de suite avec le devant du pied.
Ouais.
Comme on dit souvent. Dès que tu cours, tu es avec le devant du pied. C'est un continuum. Si je te demande de marcher avec le devant du pied, c'est très inconfortable. Si je te demande de sprinter avec le talon, oublie ça. Mm-hmm. C'est qu'il y a quand même une évolution à travers le spectre de vitesse. Là, que...
ouais, ouais.
Où est-ce que là, tranquillement, les orteils vont se rapprocher du sol. Puis à un certain point, là, c'est le talon qui va commencer à lever. Je ne sais pas si on va...
Tout
tu marches, on marche avec
fait.
Le talon.
Tout à fait.
Augmente ta vitesse, le pas se raccourcit aussi. Bien, pas se raccourcit, mais se rapproche du corps.
Ouais.
Les orteils vont tranquillement se rapprocher. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment de le voir comme ça. C'est plus la vitesse va augmenter, c'est comme une espèce de balancier.
Mm-hmm. Ça me fait penser un peu à l'évolution de l'homme, de l'humain, de dire, quand on est bébé, on ne part pas à courir tout de suite. Tu commences au début, tu marches à quatre pattes, tu glisses sur ton dos. Puis à un moment donné, tu commences à faire une coupe de pas un peu... avec un manque de coordination jusqu'au ouais. jour où tu tiens debout fermement, tu peux marcher avec coordination, équilibre, et là, tu te mets à un moment donné à courir. Mais c'est un peu la même chose, c'est ouais. de prendre le temps de progresser, mais dans une discipline ou dans une passion, appelez-le comme vous voulez. Ouais.
Alors, pour l'attaque, ouais. si mettons on avait, c'est vraiment il y a un lien à faire avec la vitesse.
Okay.
Puis c'est pas... J'essaie de plus en plus parce que je t'avouerai qu'au début de ma pratique, quand j'étais au baccalauréat en kinésiologie, déjà, moi, je courais avec le devant du pied. Donc, pour moi, c'était naturel. Puis ouais.
C'était évident.
Là. C'est ça. C'était une évidence. C'est ouais. Pourquoi les gens font pas ça?
Ouais.
Mais là, avec les années, la pratique, les clients que j'ai rencontrés, là, je me dis, OK, il y a quand même... Il y a plusieurs types de personnes.
Il y avait un mind bias, mettons.
Ouais. Puis aussi, en plus que j'avais déjà cette technique de course-là, ben j'étais dans le gros mouvement du minimaliste et devant du pied. Donc, pour moi, c'était une évidence. Là. C'était, bon, mais les autres n'ont pas raison. Mais là, c'est tranquillement. Puis même avec la pratique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient me voir, me disaient « Je suis déjà allé me faire évaluer » ou « Je regarde, j'ai lu que je devais courir avec le devant du pied, puis là, mettons, à 180 pas minutes, mais je me sens inconfortable, j'aime pas ça. » Puis du moment que je leur dis « Ok, mais on va te faire courir juste normalement, puis là, après ça, je vais te dire lequel tu devrais choisir ou au moins expérimenter. » Tu sais. Puis les gens, toujours satisfaits. Tu sais, de leur dire « Hey, je suis vraiment plus confortable, exemple, avec mon talon, mais encore une fois, avec des comportements modérateurs en termes d'impact. » Là, on parle pas encore une fois, c'est pas le talon, le genou en extension devant, là, mais vraiment de rapprocher le pied le plus possible de soi, tranquillement. Parce que souvent, ces gens-là vont courir plus autour de... Là, je dis ces gens-là parce que moi aussi, je cours aussi à cette vitesse-là temps, mais c'est... En bas de 12 km/h, ou dès qu'on fait cette transition-là de marche à la course, le talon reste quand même une façon. Talon milieu de pied, un beau déroulé de pied, reste une façon très saine d'attaquer au sol et évite de stresser trop le mollet.
Bien, c'est drôle parce que tu disais au tout début de l'entrevue, tu parlais de ce besoin de revoir tes objectifs comme triathlète pour prendre cette pause-là de compétition. Parce que tu avais besoin de retrouver l'élément plaisir dans ta pratique, parce que ça reste une passion profonde au départ, le mouvement et la course. Ça me fait un peu penser à ça. Tu dis, quand je dis aux gens, on va y aller tranquillement, vas-y à ton rythme, puis tu dis qu'ils aiment ça, c'est qu'au lieu de leur imposer quelque chose, un rythme, tu bâtis sur ce qu'ils sont confortables, et j'y suppose, corrige-moi si je me trompe, qu'ils sont beaucoup plus réceptifs à la critique constructive à ce moment-là. Oui. Et ils ont l'esprit beaucoup plus ouvert au changement que si tu disais « c'est ça qu'il faut que tu fasses ».
Oui, effectivement. Parce qu'il y a des gens qui vont rentrer, ils vont dire « en fait, tu te rends compte quand ils parlent de course à pied qu'ils le font pour le voisin ou pour l'ami ».
Tellement, ouais.
Et non pour eux.
Pour la perte de poids, parce qu'on m'a dit que c'était bon, parce que mon médecin m'a dit qu'il fallait que je commence à m'entraîner parce que blablabla.
Et... Ouais, ou simplement juste en termes de... Parce qu'on va beaucoup vers les grandes distances. De moins en moins, il y a eu des petits changements là, à travers les dernières années, là, mais les gens trouvent ça honorable et puis glamour de se dire « je vais courir un 21 ou un 42 km ». Mais il reste du 5 km, il reste du 10, il reste du 100 mètres, il reste du 200 mètres. La course à pied, c'est pas juste la course de fond. Mais il y a le trail running qui prend beaucoup d'ampleur, qui est un complément d'entraînement pour le coureur, exemple, d'asphalte, qui est excellent parce qu'encore une fois, on change les amplitudes articulaires, on change les surfaces.
La cheville travaille différemment au lieu d'être toujours en ligne droite.
Exact. Puis... Ouais. Alors, c'est souvent de leur dire, mais écoute, pourquoi tu ferais du 42 si, comment tu m'en parles, t'as pas de l'air à aimer ça ou ça a l'air à être une tâche, tu sais, il faut.
Fait que là, ça devient, dans le fond, tu vois dans leur comportement, leur body language, langage du corps, mais aussi ce qu'ils expriment verbalement. Ouais. C'est un travail sur la personne aussi, dans le fond. J'imagine que par ces questions-là, les gens font un retour sur soi, soit dans le bureau avec toi, ou à l'extérieur, après la rencontre, dans la semaine qui suit, faire... « Hey, attends un peu, là. OK. C'était quoi donc mon intention derrière l'action? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais violence si c'est pas ce qui me fait du bien et ce qui me fait plaisir au fond? » Fait que ça va plus loin que la course. Ça va sur qui je suis.
Puis tu sais, l'objectif principal au bout du compte, c'est de un, c'est de bouger.
Oui.
Puis c'est d'avoir du plaisir.
Parce que si tu veux développer à moyen long terme des comportements qui vont te permettre, on espère, vieillir longtemps de façon autonome. Parce que c'est aussi ça. Il y a un entraîneur américain qui me fascine. J'aimerais vraiment ça le rencontrer au moins une fois dans ma vie. Il s'appelle Steve Maxwell. Puis c'est un nomade depuis longtemps maintenant. Il se promène à travers le monde puis il donne ses cliniques. Il n'y a pas de place fixe depuis longtemps maintenant. Il est dans la soixantaine, un ancien Marines. Mm. Puis ça fait une quarantaine d'années, je crois, si c'est pas plus, je peux me tromper, c'est au moins, je pense, 40, qui est entraîneur. Puis un moment donné, dans une entrevue fort intéressante, il disait « Do you train to perform or do you train for longevity? » Donc, tu t'entraînes-tu pour la performance ou pour la longévité? Puis je trouvais ça intéressant, puis ça a vraiment suscité une réaction profonde en moi. Puis de regarder mon passé où seulement la performance pour moi est importante, et je me suis rendu compte que mon identité était reliée à mes aptitudes physiques pendant tellement longtemps de ma vie. Et aujourd'hui, on dirait qu'il y a un switch qui s'est fait il y a quelques années. Et là, je regarde ça d'un autre angle. Pas dans le sens où mon cœur, mon corps profond n'aime plus la performance, mais il y a quelque chose qui a changé. Et je suis en train de retrouver, on dirait, le plaisir, ce que toi tu fais, ce que tu as fait là, de faire, prendre du recul par rapport au triathlon. Moi, je l'ai fait il y a à peu près 5 ou 6 ans, mais de l'entraînement global, pas juste d'une discipline précise. Et c'est ça qui en est ressorti. J'avais perdu un peu cette notion de plaisir-là dans la performance. Pas qu'on ne peut pas avoir du plaisir dans la performance, c'est pas ça que je dis, mais moi, je l'avais perdu. J'avais perdu ce feu sacré-là du plaisir. Et là, je l'ai retrouvé dans les dernières années et ça fait tellement de différence. C'est une joie continue à chaque moment de pratique. Et non, faut que je le fasse. Ça, là, ce « I need to do it », il faut que je fasse ça. L'état d'esprit est complètement différent à ce moment-là.
Je suis sûr que tu continues à progresser.
Tu continues. Je progresse à une vitesse hallucinante.
Exactement.
Mais à un niveau différent. Je crois que maintenant, je progresse de façon plus globale, de façon plus équilibrée globalement, que ce soit au niveau émotionnel, psychologique, physique. Puis maintenant, j'ajoute l'angle spirituel. Je ne parle pas ici de religieux, je parle bien de spirituel. Moi, je fais une différence entre les deux. Et je pense que je me développe de façon plus globale en tant qu'être humain. Et je ne m'identifie plus maintenant uniquement à mes aptitudes et mes performances physiques. Donc, si ça, c'est à un moment, pour toutes sortes de raisons, c'est difficile, il me reste aussi autre chose. Alors que quand mon corps m'a lâché à la mi-trentaine, je n'étais plus rien parce que tout mon focus était sur les aptitudes physiques. Fait que ça, je vois une grosse différence à ce niveau-là. On a fait un petit crush. parce que le temps va vite. J'aimerais ça aborder au niveau de l'épaule, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent, que j'ai lu souvent, qui est un débat aussi, que j'ai vu des réponses de toutes sortes. Moi, pourquoi j'aimerais ça en parler avec toi, c'est que dans notre rencontre, justement, l'an dernier sur la rue, on avait parlé de ton attaque au sol, ce qu'on vient de discuter. Mais j'ai vu aussi passer, je crois, je ne sais plus si c'est sur ton site, dans un blog ou bien dans un post de Facebook, tu sauras me corriger, tu avais parlé justement du geste à l'articulation de l'épaule, donc l'utilisation des bras. Et tu avais vu, je crois, et tu avais parlé d'études et tu avais aussi regardé par tes applications pour découvrir que tu avais eu une économie d'énergie en ayant moins de mouvement au niveau du tronc, donc en accentuant davantage le mouvement à l'épaule, au lieu d'avoir un mouvement de gauche à droite prononcé au niveau du tronc. Donc, j'aimerais ça que tu me parles de ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, on terminera avec les mythes que tu me disais.
Oui, ça me sonne des cloches. Ça fait longtemps que j'ai écrit ça, d'ailleurs.
Est-ce que c'était sur ton site ou c'était...
Oui, c'était sur le site.
OK, bien, à ce moment-là, tu m'enverras, s'il te plaît, le lien. Je pourrais le mettre en dessous du podcast pour les gens qui sont intéressés.
Il y a ça fait partie des choses quand les gens se voient courir, pensent qu'ils bougent les bras.
Tout à fait.
C'est le tronc qui bouge, c'est ça. Le mouvement au niveau des bras va vraiment, en fait, là, c'est... Juste pour garder ça simple, c'est les membres inférieurs, membres supérieurs sont comme en symbiose. Mm-hmm. Il y a un contrebalancement du momentum. Puis en optimisant le mouvement des bras à l'épaule, le mouvement des jambes aussi va être optimisé.
Okay.
Tu sais, simplement comme ça. Parce que la masse du bras, exemple, est plus petite que ton tronc. Mm-hmm. Okay.
Pour un coureur de fond,
ben pour n'importe qui.
Mais pour un sprinteur qui va essayer d'équilibrer le haut et le bas autant que possible au niveau de la masse musculaire.
Oui. Puis la tâche, par contre, pour le sprinteur est différente du coureur de fond qui vise l'économie, tandis que le sprinteur, c'est de développer le plus de puissance possible pour se rendre du point A au point B le plus rapidement possible.
Dans une très, très courte période de temps. Exact. Fait que l'idée, l'objectif est totalement différent.
Elle change beaucoup. Mais reste que le mouvement des bras doit être au niveau de l'épaule et non au niveau du tronc. Le mouvement des bras va améliorer la fréquence de pas. Donc, quelqu'un qui veut augmenter sa fréquence de pas en ajustant plus de mouvement au niveau de l'épaule va sentir, puis ça, ça se sent tout de suite.
Donc, pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que plus tu accélères le mouvement des bras, plus ça va t'aider aussi à accélérer la fréquence du mouvement au niveau des jambes, c'est ça, je comprends?
Pas nécessairement d'accélérer, parce que tu peux rester, exemple, à une même vitesse, mais quand tu optimises le mouvement des bras, tu sens que les jambes bougent plus facilement.
Je comprends. Okay.
Et oui, effectivement, si, toujours encore une fois, si le mouvement se crée au niveau de l'épaule, non du tronc, puis que tu augmentes ta vitesse, si tu augmentes l'amplitude aussi, puis que le mouvement des bras reste plus rapide, mais encore une fois, au niveau de l'épaule, les jambes vont suivre aussi plus facilement.
Je comprends.
Le tronc va toujours bouger un petit peu. On n'est pas encore rigide.
Tout à fait.
Le tronc, lui, va être comme la connexion entre tes membres supérieurs et inférieurs. Puis c'est lui qui va emmagasiner un petit peu d'énergie.
Donc, c'est comme un élastique que tu tords, détords.
Exact. Mais le tordage, détordage doit respecter une certaine, je vais dire amplitude, mais c'est surtout au niveau des contractions musculaires. Puis ça, c'est la même chose au niveau du mollet.
OK.
C'est que du moment qu'il y a beaucoup d'étirement, contraction excentrique, là, où est-ce que les fibres s'étirent.
Oui, le muscle s'allonge.
Le muscle s'allonge. Il n'y a pas d'emmagasinage d'énergie. Ou du moins, pas beaucoup. Okay. Mm-hmm. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, parce qu'on va trouver un article qui va dire qu'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait en sorte qu'il y a la perte d'énergie, pour emmagasiner d'énergie, il faut que la contraction, même s'il y a du mouvement, se fasse en isométrie pour après ça tomber dans la concentrique dès qu'on revient. Okay?
Pour que les gens comprennent ce que tu viens de dire, le néophyte, juste exprime ça en mots.
Alors, excentrique lorsque
le muscle s'allonge.
Isométrique reste fixe.
Ne bouge pas, c'est une position statique.
Exact. Puis le concentrique, où est-ce que les fibres se raccourcissent.
Okay. Voilà.
Parce que l'emmagasinage d'énergie se fait au niveau surtout des tendons. C'est le tendon qui joue plus d'élastique. Ah oui, il y a plusieurs autres membranes, on ne rentrera pas dans les détails, là, mais c'est surtout là. On veut étirer le tendon.
Et le tendon qui attache le muscle.
Le muscle au squelette.
Au squelette ou à l'os, ouais.
Donc, si on est capable de respecter cette contraction isométrique-là, quand il y a une petite rotation du tronc, c'est surtout les ligaments ou tendons qui s'étirent juste un petit peu. Puis quand on revient dans le mouvement inverse, là, les tendons, les ligaments qui jouaient d'élastique se raccourcissent et aident à la contraction après ça du muscle.
Ouais.
Je le vulgarise, là, c'est assez complexe.
Plus complexe
là. Que ça. Puis c'est la même chose au niveau du mollet. Là. C'est pour ça que la vitesse aussi à la course à pied va avoir un impact sur est-ce que tu utilises le talon ou le devant de pied.
Ouais. Okay.
Ce qui fait en sorte que tu économises beaucoup plus d'énergie à garder le tronc plus stable. Donc là, on parle plus de renforcement musculaire au niveau de la
gaine,
rester le plus droit possible. Encore une fois, il va toujours avoir un petit peu de mouvement. Ce petit regain d'énergie-là qui aide quand le tronc fait juste tourner un petit peu, aide aussi pour le mouvement du bras.
Et combien, je m'en souviens pas parce que j'ai pas retrouvé cet article-là, mais comme je te disais, tu pourras me l'envoyer puis je le mettrai pour les gens qui sont curieux. Combien tu avais dit que tu avais économisé à peu près?
Ah, ça, c'est trop loin, plus. Je m'en rappelle loin. Plus. Mais oui,
Il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant. Là.
Parce que l'étude montrait, c'était pas si tu bouges plus le tronc ou les épaules, mais avait vraiment fait une expérimentation avec les bras croisés en avant,
les bras
au-dessus de la tête. Donc, il y avait une inhibition d'utilisation des bras.
OK.
Puis, dans le contexte, où est-ce qu'il n'y avait pas de bras, tout dépendamment où est-ce qu'il était placé, la dépense énergétique était plus élevée.
Okay.
Ça coûtait donc plus cher de courir en sous-utilisant les bras. Puis là, on peut faire le parallèle à lorsque tu n'utilises pas optimalement le mouvement
les
de tes bras.
Supérieur.
Ben, il y a une perte d'énergie.
Ouais. Donc, les bras sont là pour quelque chose, tant pour la coordination, l'équilibre, mais aussi une économie possible d'énergie dans ton geste sportif qui est la course.
Oui.
Donc, moi, j'ajouterais, de par ce que je fais en général avec mes clients, je travaille beaucoup, beaucoup en mobilité, en flexibilité avec les travailleurs assis à l'ordinateur. On parlait tantôt des psoas qui peuvent être très, très raides et tout. Mais je le vois aussi dans la posture devant l'ordinateur avec les yeux qui fatiguent, les épaules qui s'arrondissent et tout. Donc, de garder une bonne mobilité articulaire à l'épaule, de garder une bonne flexibilité aussi au niveau pectoral, au niveau de l'épaule, au niveau biceps, au niveau des muscles posturaux, la chaîne postérieure, ça devient aussi quelque chose d'important si tu veux avoir un bon mouvement à l'articulation de l'épaule.
Exactement, parce que c'est pas rare que j'entends le commentaire quand j'invite les gens à travailler plus avec les épaules, de dire mm-hmm. je trouve que ça tire.
Ouais.
Au niveau du devant de l'épaule, mais là, c'est ça, c'est qu'il y a un manque de flexibilité
ouais.
à cause, comme tu dis, le travail. Souvent, on est porté plus à travailler vers l'avant.
Tout à fait. On est beaucoup dans le plan avant dans notre société. Puis là, avec le smartphone, ça aide pas avec les textos. Exact. On est fermé tout le temps en train de texter à une main ou à deux mains.
Le cellulaire à quelques pouces du visage, les épaules rentrées.
La pression sur les vertèbres cervicales qui est accentuée par la tête qui tombe vers l'avant et ainsi de suite. Donc, ça a une répercussion aussi sur ton geste, ta passion à la course à pied.
Exactement.
Et c'est même pire parce que là, tu accélères le mouvement. Ouais. Donc,
Le beau parallèle, c'est ça. C'est dès que, tout ce qui est de toute façon, tout ce qui est au niveau du haut du corps, je veux dire, quand tu embarques à la course à pied, c'est sûr que c'est les jambes là, qui
tout
travaillent.
Tout à fait.
Que tout ce qu'on voit, les dos arrondis, les épaules asymétriques, la tête croche.
Ah, la répercussion.
C'est tout ce que les gens font à l'extérieur va se transposer à la course à pied. Puis, tu sais, des douleurs de dos, que ce soit au bas ou au haut du dos, qui sont ressenties à la course à pied, c'est pas la course à pied nécessairement qui engendre ces douleurs-là.
Ouais,
mais c'est
accentué, par contre.
C'est accentué, mais ces gens-là sont souvent croches au début, dans la vie de tous les jours.
Sans même bouger,
Il y a
un problème, une correction à apporter.
Ouais. Mais à cause de l'impact, à cause du stress mécanique, de la course à pied, souvent les blessures sont ressorties.
Fait que dans le fond, c'est comme si la course à pied, c'était juste le dernier petit bout qui manquait pour faire ressortir quelque chose qui était problématique, qui était déjà installé.
À la base,
Je terminerai avec... Est-ce que tu pourrais me dire très rapidement deux à trois mythes qui reviennent presque continuellement dans ta pratique au niveau de la course que tu pourrais ici corriger, disons?
Bien, on a déjà parlé de l'attaque, de dire en fait que c'est possible d'attaquer de n'importe quelle façon, tout dépendamment de la vitesse, l'expérience de la personne. Donc, il ne faut pas prendre...
Ça, c'est bien, ça, c'est mal.
Exactement, de dire que là, parce qu'on est vraiment dans le sujet d'actualité, de dire qu'il faut attaquer avec le devant du pied. Je suis d'accord, je suis vraiment d'accord avec ça, mais est-ce que le pied est prêt? Est-ce que la cheville est prête? Est-ce que le mollet est prêt
tendons,
à absorber tout ça?
Ouais.
Donc, je dirais aux gens, non, ce n'est pas une nécessité. Après ça...
Deuxième mythe,
le 180 pas minute, qui est encore une fois... Là, je suis peut-être fatiguant, là, je suis peut-être assez redondant.
On entend souvent de 150 à 180, c'est comme le chiffre miracle qu'on voit souvent.
Ben alors, c'est ça. Le mythe, c'est surtout de... Le mythe n'est pas nécessairement de dire que c'est 180, mais c'est de mettre un chiffre.
Ouais.
Parce que ce chiffre-là va changer encore une fois en fonction de la vitesse. Si je te demande de marcher à 180 pas minute... T'es pas confortable. Si je te demande de sprinter à 180 pas minute, ça fonctionne pas. Je veux dire, tes longueurs de pas vont être trop grandes. Fait que ton spectre de fréquence de pas, lui, il va évoluer en fonction de la vitesse. Si tu cours à 10-11 km/h, ton 170 pas minute, plus ou moins 5, va très bien se faire.
Donc aussi, la qualité biomécanique de ton geste et ta condition physique cardiovasculaire et musculaire aussi pour stabiliser ta posture pendant la course va être aussi très importante parce que de soutenir 180 pas minute, si tu commences, tu n'es pas en forme, ta capacité cardiovasculaire, elle est, on va dire, minimale, je t'en demande pas mal. Là.
Surtout musculosquelettiquement parlant, parce que c'est toujours... Plus la fréquence de pas augmente, plus c'est une contraction, étirement, qui est plus rapide au niveau des hanches.
Ça va être dur.
Parce que là, quand tu imagines le sprinteur qui est à 240 pas minute, ses jambes vont très vite.
Ouais.
Là, il faut qu'il y ait une synchronisation musculaire.
La marge d'erreur est zéro.
C'est quand les gens, quand ils vont se claquer un muscle, souvent c'est parce qu'il y a eu une co-contraction quelque part. C'est une des raisons, il y en a d'autres pour ça. Mais la vitesse à laquelle les jambes vont, comme tu dis, va dépendre de l'expérience de la personne. Exemple, à 10-11 km/h, d'être autour du 160-170, plus ou moins 5. Ça va bien généralement pour les gens. Après ça, quand on commence à courir un petit peu plus vite, là, de toute façon, l'expérience aussi embarque. Plus on court vite habituellement, plus les gens ont de l'expérience. Là, le 180 pas minute devient intéressant. Puis là, on pourrait parler entre, je sais pas moi, entre 15, je dis des chiffres à peu près. Là. J'aime pas beaucoup les chiffres, moi.
Plus dans le ressenti, dans l'analyse individuelle pour trouver ce qui convient réellement à la personne.
Entre ceux qui vont courir entre 14 et 18 km/h, le 180 commence à être quand même très intéressant.
Et c'est plus confortable.
Exact. Au-delà de tout ça, là, quand on tombe, exemple, dans les disciplines du 1500 m, du 400 m, là, c'est oublié le 180 pas minute, là, on tombe dans, tranquillement vers le 200. Fait qu'il y a comme une continuité à travers ça. Puis, comme je disais tantôt, c'est que j'aime pas. Le mythe, c'est de dire qu'il y a un chiffre. La réalité est de dire d'augmenter la fréquence de pas.
Fait que si t'es exemple actuellement, je
à
dis n'importe
170,
quoi, essaye de...
aller à 173.
Puis ressens ce qui se passe, puis vois comment ton corps réagit et adapte-toi. Et vas-y de façon progressive.
Exactement.
Et mettons un dernier, un troisième mythe que tu entendrais souvent, qui te revient constamment.
Celui-là. j'ai les bras, parce que là, les gens pensent qu'il faut avoir, encore là, c'est encore en termes de chiffres, c'est, là, il faut que j'aille 90 degrés au niveau des coudes. Encore une fois, c'est pourquoi mettre 90? Puis encore une fois, c'est à quelle vitesse tu cours? Parce que... La course de fond, en fait, le bras, c'est un bras de levier. Bon, c'est une masse, puis plus il est allongé, donc plus on a le bras en extension, le coude en extension.
Donc, si on courrait avec les bras tendus,
là, le bras de levier est très long. Le mouvement, puis là, on revient, exemple, au mouvement au niveau de l'épaule. C'est beaucoup plus difficile à l'épaule de contrôler la contraction
si le levier est long.
Comme quand on prend, exemple, un manche à balai, si je le tiens à l'extrémité, puis j'essaie de le bouger, faire des ronds, c'est difficile. Si je le coupe de moitié...
Ou si je fléchis au coude, ça va être aussi un peu plus facile.
C'est ça. Puis le bras fonctionne de la même façon. Plus je vais plier le coude, la main se rapproche tranquillement de l'épaule, le bras de levier diminue, le mouvement devient plus optimal. Le sprinteur, il va avoir les coudes à 90 degrés, peut-être même un petit peu plus. Mais la tâche est différente.
Encore le là, coureur c'est quoi l'intention derrière l'action? Pourquoi tu le fais?
Le coureur de fond, il faut qu'il ait les mains quand même. Il faut qu'il y ait une bonne flexion au niveau du coude. Puis on le ressent très rapidement, ça. Du moment qu'on fléchit juste un petit peu, puis encore une fois, c'est pas de passer de 90 à 60 degrés de flexion, mais c'est simplement de fléchir un petit peu. Puis les quelques centimètres qu'on va sauver sur le bras de levier, bien, ils vont être très bénéfiques au niveau de l'épaule.
Puis en plus, sur un 21, un 42 km, c'est là que tu fais une grande différence. Ça s'accumule dans le fond.
Ça s'accumule, c'est ça. Fait que l'autre mythe, c'est de dire, bien, le bras doit être à 90 degrés puis je dois avoir les mains bien droites. Non, là, quand les mains... Ou de tenir une... c'est quoi? Oui, bien, pour renforcer ça au niveau des membres supérieurs, c'est on m'a dit que je devais tenir une chips, une rose. Mais tu sais, en fait, l'idée, c'est de se dire j'essaie de tenir quelque chose de léger. Mais juste le fait de mimer, de tenir quelque chose, crée une certaine contraction au niveau des mains qui se transpose tranquillement avec la fatigue dans l'avant-bras.
Et là, la
dans
posture
bras,
peut changer
dans
graduellement.
Dans l'épaule. Puis là, fait que là, c'est garder les mains relaxes, simplement. La position des mains ne devrait pas trop changer de la position debout statique si je laisse les bras tomber. Quand je plie les coudes, mes mains devraient rester à peu près pareilles.
Ça, là aussi, au niveau des mains, j'ai entendu, j'ai lu plein de choses différentes. Puis c'est ça, je trouve, qui devient difficile un peu au final, c'est de dire, OK, il y a tellement d'informations disponibles aujourd'hui et c'est quelque chose de très positif parce que tu peux devenir, en tant que pratiquant autonome, si tu le veux bien, si tu fais tes recherches, ça permet justement d'aller chercher l'information. Par contre, en même temps, il y a beaucoup de propagande, beaucoup de désinformation et de démystifier le vrai du faux dans tout ça, ça peut devenir, en anglais, « overwhelming ». Je cherche le mot français.
Là, tu viens de me le dire. C'est sûr que je veux juste avoir « overwhelming » en tête.
Écrasant, oppressant, en fait, difficile de démystifier, de trouver le vrai du faux dans tout
confusion,
ça.
Confusion.
Oui, ça crée la confusion. Ouais.
Définitivement. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement se fier à ce qu'on entend sur Internet. Il faut que la personne, en fait, aille fouiller un petit peu plus. C'est surtout ça.
Aller un petit peu plus loin. Qu'un simple Google, tac, ah, la première réponse qui est sortie, c'est la vérité.
Oui.
Essaye d'aller voir aussi, chercher sur différentes personnes, voir c'est quoi ses backgrounds. Puis si tu vois qu'il y a des consensus, là, à un moment donné, tu peux commencer à faire « OK, je vois un parallèle, je vois un pattern qui se crée. » Mais en même temps, de toujours garder un esprit critique quand même et surtout de t'écouter, toi, l'information à la base de ton corps, qu'est-ce que ça dit? Même si cet expert-là ou plusieurs experts ont dit « c'est ça qu'on devrait faire », si toi, quand tu le fais, ça fait mal, mais pas mal dans le sens « OK, je suis en train de m'entraîner, je crée une surcharge, c'est une douleur normale de la surcharge. » Non, non, t'as mal. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que ton corps te dit « ça marche pas ». Fait que peut-être que pour toi, c'est pas la vérité, c'est pas la bonne chose.
Exactement. C'est souvent, si les gens vont, comme tu disais, d'aller fouiller, c'est la personne qui va avoir l'explication plus diversifiée que de dire c'est tel point qu'il faut aller chercher. La personne qui est radicale.
Oui.
Le point de vue radical peut convenir à certaines personnes parce qu'il entre dans cette population-là. Comme exemple, quand j'étais au bac, puis que je courais déjà avec le devant du pied, c'était
écoute, ça va c'était de comme ça.
Exactement. Là, j'étais pas allé j'avais pas poussé la critique de ça.
Ouais.
Fait que tout ce qui est très, c'est ça, radical, peut-être d'essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir à l'extérieur, parce que probablement que les gens vont être capables de trouver beaucoup plus de réponses au lieu de se laisser guider par quelqu'un.
Pour résumer un peu tout ça, pour terminer là-dessus, ce serait de garder l'esprit ouvert, garder l'esprit critique et de chercher, de fouiller, de se donner le temps, en fait, d'aller chercher de l'information diverse. Et de là, avoir une opinion, mais c'est surtout de dire, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a peut-être plus de zones grises.
C'est 50 Shades of Grey.
Exact. Ça fait vraiment bien là-dessus. On revient à notre 50 Shades of Grey. Merci infiniment.
Éric, c'était un plaisir.
Ben moi aussi. Et pour les gens qui ça va les intéresser, je vais mettre sous le podcast les liens vers Kinactif pour si vous voulez rejoindre Gaga, de son pseudonyme. Et aussi, comme je te disais tout à l'heure, m'envoyer le petit lien vers cet article si les gens veulent comprendre un peu mieux au niveau du geste à l'épaule.
Oui.
Donc, je te donne un travail, le retrouver, ce billet blog.
C'est parfait.
Et on se dit, nous, à la prochaine fois pour une autre entrevue avec une autre personne très intéressante. Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de partager avec vous mes connaissances et mon expertise. On se revoit bientôt. D'ici là, il vous est toujours possible de consulter la section ressources gratuites du site de slowtraining.ca
pour les billets blog et podcast. N'oubliez pas également la chaîne vidéo privée pour les membres où vous avez accès depuis janvier 2017 à 138 vidéos originales exclusives. De nouvelles productions y sont mises en ligne régulièrement. Mon nom est Éric Blais, je vous dis à la prochaine fois.